When the da di da 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 da, black men rich from the living dead before it's too late. I don't know. It's one of my favorite parts, but I didn't listen to it and learn it.
But c'est mon moment préféré de l'opéra.
The reason that I say that.
Mais je ne l'ai pas appris par cœur.
Is that it's my favorite part. But it's a sad part too.
C'est mon préféré, mais c'est aussi un moment triste.
The lyrics conclude,
parce que les paroles se terminent par
«
Homme noir, lève-toi de ta tombe avant qu'il ne soit trop tard. » Mais quand est-ce qu'il est trop tard pour se lever de sa tombe ?
Right? So...
Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies.
Assalamu alaikum.
Malcolm X, Colère noire. Romain Weber, Yvon Croisier.
Quatrième épisode, le porte-voix.
Sylvie Laurent, qu'est-ce que ça veut dire Malcolm X ?
Ça veut dire « je réécris mon propre nom ». Le nom qu'un employé d'une mairie quelque part a inscrit comme étant « little », d'une part ça veut dire « petit », c'est peut-être pas forcément ce qu'il a envie de porter, c'est pour lui le nom administratif donné par un État qui a privé les Noirs de leur identité, de leur origine, de leur fierté, de leur religion et de leur dignité, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'en réclament. Il y a dans la culture populaire un grand moment où les États-Unis redécouvrent l'histoire des Noirs américains, c'est lorsque la série Roots passe sur les écrans, qui est une longue histoire en plusieurs épisodes de l'esclavage aux États-Unis et l'une des scènes qui a le plus traumatisé la population américaine qui découvrait ça, c'est le moment où le héros, un jeune Noir qui naît dans les plantations, est fouetté à mort, parce qu'il refuse de prendre le nom que le maître veut lui donner. Il veut garder son vrai nom africain. Le tortionnaire va jusqu'à le frapper à mort, pour lui dire « dis que tu ne t'appelles pas de ton nom et dis que tu t'appelles ». Et la grande phrase c'est « I am Kinta Kinte », c'est mon vrai nom. Et la reproduction de ce geste qui est de dire « mon nom est X », c'est un acte révolutionnaire de dénégation du fait que l'Amérique a inventé les Noirs américains. C'est l'idée que les Noirs américains sont à eux-mêmes leur propre nom. Et donc c'est un acte de renaissance et d'affirmation de sa souveraineté sur soi-même qui est le grand objet de la lutte noire américaine. Décider de son corps et donc de son nom. Et donc il est Malcolm X.
Alors pour le découvrir, Malcolm X, Christiane Taubira, je voudrais qu'on lise à deux... des extraits d'une pièce d'Aimé Césaire, et vous êtes là en duplex de la Martinique, qui sont ces terres. Cette pièce, ça s'appelle Une tempête, et c'est sous-titré D'après la tempête de Shakespeare, adaptation pour un théâtre nègre. C'est un passage où il y a Caliban, Malcolm X, et puis il est confronté à un autre personnage, Prospero, le maître esclavagiste, Caliban et son esclave. Et donc vous faites Caliban, Malcolm X. Je vous donne la réplique, d'accord ?
Ah, j'oubliais. J'ai quelque chose d'important à te dire.
D'important ? Alors vite, accouche.
Eh bien, voilà. J'ai décidé que je ne serai plus Caliban.
Qu'est-ce que c'est que cette foutaise ? Je ne comprends pas.
Si tu veux, je te dis que désormais, je ne répondrai plus au nom de Caliban.
D'où ça t'est venu ?
Eh bien, il n'y a que Caliban n'est pas mon nom. C'est simple.
C'est le mien, peut-être ?
C'est le sobriquet dont ta haine m'a affublé et dont chaque rappel m'insulte. Appelle-moi X. Ça vaudra mieux. Comme qui dirait l'homme sans nom. Plus exactement, l'homme dont on a volé le nom. Tu parles d'histoire. Eh bien ça, c'est de l'histoire. Et fameuse. Chaque fois que tu m'appelleras, ça me rappellera le fait fondamental que tu m'as tout volé et jusqu'à mon identité.
Qu'est-ce qu'il y a derrière le X de Malcolm X, Christiane Taubira ?
Ben, il y a le refus d'une autorité sur lui, sur sa personne, sur son destin, sur son identité. Plus on comprend l'histoire de la traite et de l'esclavage, plus on comprend qu'il y a eu non seulement l'asservissement des corps, l'appropriation de la force de travail, mais il y a eu pire que ça. Il y a eu le vol du nom, il y a eu le vol de l'identité, il y a eu le vol de la mémoire. Il y a eu, dès la cale des bateaux négriers, il y a eu le mélange des personnes de langues différentes, puisque l'Afrique, c'est un continent avec des milliers de langues. Et les personnes, les captifs, les captives ont été mélangées de façon à éviter, pensait-on à l'époque, mais juste retarder un peu, les résistances, les mutineries, les révoltes dans les cales de bateaux négriers. Donc, et on a enlevé le nom à tout le monde. Donc, on se rend compte que un des instruments les plus opérationnels et les plus puissants pour asseoir la domination, c'est le fait de troubler, d'aliéner, d'arracher la mémoire, le souvenir, la conscience de sa propre identité. Donc on a volé les corps, on a meurtri les corps, on a torturé les corps, on a massacré les corps, on a détruit les corps, mais on a aussi et peut-être principalement volé les noms. Et ça, c'est ce que dit le X de Malcolm X, qui s'appelait Little, ça veut dire petit, hein, mais ça devait être le nom d'ailleurs d'un propriétaire de plantation. Et la plupart des descendants d'esclaves ont des noms de propriétaires de plantation. Donc, c'est une prise d'autorité sur soi. C'est on se retrouve, on décide d'être soi, d'être autonome, d'être souverain sur soi. Et c'est ce que signifie ce X, y compris chez Caliban, sous la plume d'Aimé Césaire.
Abdourahmane Mohamad, vous êtes historien, vous êtes l'auteur d'une série qui a été diffusée sur Netflix, Who Killed Malcolm X. Malcolm X adhère à la Nation of Islam quand il est en prison. Quelle est la relation qu'il a avec le chef de la Nation of Islam qui se considère comme le messager d'Allah et qui s'appelle Elijah Muhammad?
Elijah Muhammad was the father figure that Malcolm lost with the death of his father.
Elijah Muhammad est la figure paternelle que Malcolm avait perdue avec la mort de son père en 1931. Malcolm n'avait que 6 ans. Et il en avait 13 quand sa mère a été internée à l'hôpital psychiatrique de Kalamazoo, dans le Michigan. Il n'a même pas 21 ans quand il entre en prison. Il devient un homme là-bas. Donc, quand il sort, il a besoin d'orientation. Et il se tourne vers cet homme, Elijah Muhammad, qu'il accueille et qu'il aime plus que ses propres enfants. La femme d'Elijah Muhammad, Clara, voyait Malcolm comme le fils brillant qu'il n'avait pas eu. Et c'est ce qui a créé autant d'animosité à l'égard de Malcolm. Parce que, pour les croyants, quand il s'est retourné contre Elijah, ça a été vu comme la trahison ultime. C'était une relation père-fils. Mais c'était aussi mutuellement bénéfique. Elijah a donné à Malcolm la scène sur laquelle il pouvait montrer sa puissance d'orateur. Et Elijah récoltait la richesse et le pouvoir que rapportait Malcolm. Donc, c'était aussi une relation de bénéfice mutuel.
Qu'est-ce que Malcolm X a fait pour la Nation of Islam quand il est sorti de prison en 1952, Abdourahman Mohamed?
Il
est devenu le prédicateur enflammé de ce tout petit mouvement religieux. Quand Malcolm X est sorti de prison, à l'été 1952, la Nation of Islam comptait 400 adeptes, 500 tout au plus.
Malcolm va prendre cette organisation et by 1961.
Malcolm rejoint cette organisation et en 1961, il y a près de 200
000
membres avec des mosquées dans tout le pays. Nous devons apporter le message au peuple et il appelait ça pêcher. Comme dans la Bible, Jésus dit « Soyez des pêcheurs d'hommes ». Malcolm allait pêcher des hommes. Il allait à la salle de billard, dans les salles de jeu, dans les boîtes de nuit. Il amenait ses frères et sœurs noirs au temple et il leur apprenait.
Au cours de l'été 1953, j'ai été nommé premier assistant du pasteur du temple numéro 1.
Malcolm X.
À Détroit.
L'autobiographie.
Tous les soirs après le travail, j'allais à la pêche, dans le ghetto. Je regardais mes frères et sœurs noirs au cerveau lavé par le démon blanc. Je voyais leurs cheveux, qu'ils raidissaient à la soude comme je l'avais fait pendant des années, devenir mous et lisses comme des cheveux de blanc. Très souvent, ils rejetaient les enseignements de Monsieur Muhammad, voire s'en moquaient. Il arrivait que la tête me tourne de colère et de pitié. J'attendais avec impatience la prochaine fois que je pourrais parler au temple. Et je disais, donnez tout ce que vous pouvez pour aider Elijah Muhammad à nous rendre notre liberté. L'homme blanc nous a toujours contrôlés. Il nous a obligés à ramper devant lui en le suppliant. S'il vous plaît, monsieur l'homme blanc, pourriez-vous me donner une petite miette de votre table qui croule sous les richesses? Mes frères et sœurs noirs, vous êtes beaux. Et quand je dis noir, je veux dire tout ce qui n'est pas blanc. Car regardez vos peaux. Nous sommes tous noirs aux yeux de l'homme blanc, mais en réalité, nous sommes de mille et une couleurs. Tournez-vous, regardez-vous les uns les autres. Quelle nuance de noir africain pollué par le démon blanc est la vôtre?
Écoute-moi, j'ai un mot à te dire, mon frère, écoute-moi. Non, parce qu'on voit que t'es un homme intelligent, un homme avisé, t'as bonne mine. Je te vois entrer à l'église tous les jours. Tu viens ici prier le Dieu qui est là-dedans, et moi je te dis que ces soi-disant chrétiens blancs, ces soi-disant chrétiens, pendent des chrétiens noirs aux branches. Ce sont des hommes qui te haïssent. Ils te disent qu'ils t'aiment, mais ils ne font jamais rien pour toi. Ils t'invitent à venir la bave à la bouche. Ils te disent de disparaître, de chanter, de vociférer, de placer tes espoirs dans l'au-delà. Mais c'est ici que ça se passe. L'avenir nous appartient.
Oui,
passe
oui,
nous voir à 2 heures. Assalam alaikum. Oui. Tu sais ce que ça veut dire, frère?
Oui,
ça veut dire la paix soit avec toi.
Firwan Aklaf, batteur.
Well, Malcolm X is really my father.
Malcolm X. C'est vraiment mon père.
He and my father were born the same year.
Lui et mon père sont nés la même année.
My family is from Michigan. I'm from Detroit.
Ma famille est du Michigan.
So that history,
je viens de Détroit.
His father, Reverend Little,
donc l'histoire de son père, le révérend Little, dans le Michigan,
activities in Detroit are
et les activités de Malcolm à Détroit
just as much as all of the other things
sont vraiment des choses qui m'ont modelé.
My father, at the time, 1965, when,
en 1965,
when Malcolm gave his Detroit,
quand Malcolm a donné son discours à Détroit, mon père n'était pas un fan de Malcolm X.
So this is where he and I disagreed.
Là-dessus, on n'était pas d'accord. Il aimait Martin Luther King. Et parfois, les Afro-Américains, dans les années 60, pensaient qu'il fallait choisir.
Détroit, c'est un des foyers, une des villes les plus importantes dans le nord de la Nation of Islam. Est-ce que vous vous souvenez de membres de la Nation of Islam qui recrutaient des gens dans la rue? Ils disaient qu'ils allaient à la pêche. They went fishing.
Oui, je m'en souviens, parce qu'ils avaient leur bureau sur mon chemin pour aller à l'école. Et à quelques mètres de là, il y avait le Congrès panafricain et la République de Nouvelle-Afrique. Donc je pouvais aller les voir tous et discuter après l'entraînement de foot. Ah oui, fermons cette porte.
Est-ce que vous savez, Firouane Aklaf, que Malcolm X, quand il était jeune, il faisait de la batterie et qu'il y avait même un surnom qu'il portait qui était Rhythm Red?
Yes.
Vous pensez que c'était un bon batteur, Malcolm X?
Oh, I never heard it.
Je n'ai jamais entendu, mais j'en suis certain. Au rythme de sa voix, vous pouvez dire que c'est un bon batteur. Le rythme de ses mots et de sa communication. Il aimait le fait que les musiciens de jazz soient comme une petite armée.
Pourquoi ?
Comme des gardes-côtes ou des réservistes. Parce qu'ils allaient dans tous ces endroits ségrégés, qu'ils étaient accueillis avec un racisme atroce et qu'ils s'unissaient et qu'ils luttaient à leur manière.
Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on traduit Malcolm X en rythme?
Ah, so you would need to have
il faut avant tout de la délicatesse.
En avril 1954, grâce au succès de Boston et de Philadelphie, M. Muhammad m'a nommé pasteur du temple numéro 7 à New York. Tu ne saurais décrire le tourbillon d'émotions que j'ai ressenti. Pour que les enseignements de M. Muhammad ressuscitent les Noirs d'Amérique, l'islam devait se répandre partout. Et aucun endroit ne représentait un aussi grand potentiel que les 5 arrondissements de New York. Il comptait plus d'un million de Noirs.
On continue, Hicham Haïdi, notre petit trajet dans Harlem, à bord de votre voiture. Harlem, ça commence à la combientième rue?
Alors, ça dépend à qui tu demandes. Donc, Harlem commence 110, géographiquement.
110, c'est juste au-dessus Central Park, sur l'île de Manhattan.
Exactement. Mais il y a des gens qui considèrent 125 comme la grande frontière.
Des immeubles de 1, 2, 3, 4, 5 étages avec, c'est New York, donc il y a ces escaliers en métal de secours qui sont sur la façade, des grands immeubles en pierre ou en briques, rouge, gris, mais aussi là par exemple, là, juste à côté, des églises, partout des églises baptistes, des églises pentecôtistes. Et là on arrive.
135, je vais vous montrer le jazz bar, Small's Paradise.
Malcolm X allait danser?
Même après sa conversion, il était très attiré à la musique. Et il avait des débats avec des prêcheurs, des imams qui étaient plus conservateurs que lui. Et c'est toujours un débat. Alors voilà. Ici, au coin, ici, right here. C'est cet endroit. S'appelait Small's Paradise.
Et le boulevard, c'est Adam Clayton.
C'est la 7e avenue. 7th Avenue. Adam Clayton Powell. Mais ici, c'était une grande boîte, club, centre de jazz pendant la Harlem Renaissance, pendant les années 20, les années 30, 50. Et il a rencontré tout le monde ici, Malcolm X. Moi, j'ai connu les années 90, je connaissais des gens ici qui avaient 80 ans qui se rappelaient de Malcolm, comment parfois il ne pouvait pas dormir, donc il sortait se balader la nuit. Après, il se baladait, il marchait dans la rue. Et voilà Hotel Teresa, c'est ici. Qu'est-ce qu'on fait? On se parque devant ou...
Oui.
Okay.
Nous recevez chez vous, Peter Bailey, on est à Washington. Et vous avez connu, vous, Malcolm X. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez rencontré?
Yes.
Oui.
It was in the summer of 1962.
C'était à l'été 1962.
So, I moved in.
J'ai emménagé à Harlem un vendredi soir.
Saturday morning.
Le samedi matin, j'étais en train de défaire ma valise et j'ai décidé avec un ami de descendre Lenox Avenue, ce qui est maintenant Malcolm X Boulevard. Alors, on a continué jusqu'à la 116e et on a vu une foule se rassembler. On a demandé ce qui se passait et on nous a dit « Malcolm X va parler ».
Malcolm X.
À cette époque, j'avais entendu dire que Malcolm X était un raciste noir, qu'il croyait en la violence, etc. Beaucoup de choses négatives. Et on s'est dit, on va voir ce qu'il a à dire. Alors on s'est arrêté. Et ce frère a parlé près de 3 heures. Quand il s'est arrêté, j'étais devenu un malcolmiste. Parce que je n'avais jamais entendu personne parler de la situation raciale comme lui. J'avais 20 ans. Après l'avoir écouté ce samedi, partout où il parlait, à New York, j'allais.
Malcolm X, Harlem, 1962.
A white gorilla named Uncle Sam.
C'est un gorille blanc du nom d'Oncle Sam.
Because Uncle Sam gets his cut.
Une des plus grosses sources de revenus d'Oncle Sam, c'est la taxe sur les cigarettes. L'une de ses plus grosses sources de revenus, c'est la taxe sur le whisky. C'est par là que passe le diable. Tant que vous êtes addict aux vices de l'homme blanc, quand vous faites appel à Dieu, Dieu n'entend pas vos prières. Et l'homme blanc le sait. Mais l'homme blanc sait aussi que quand vous vous en débarrassez, quand vous vous purgez et que vous vous mettez du côté de Dieu, Dieu répond à votre appel. L'objectif de Dieu, c'est de détruire le diable. Le but de Dieu, c'est de détruire les pécheurs et le mal et l'indécence et l'immoralité. Vous voulez faire ça vous-même, hein? Hein? Vous voulez de l'action? Parce que vous n'aimez pas que des blancs tuent des noirs. L'homme blanc devrait être heureux que Dieu ait donné à l'honorable Elijah Muhammad le contrôle de ses fidèles. Pour qu'il reste cool, calme, tranquille. Et qu'il laisse Dieu faire son œuvre.
Là, Hicham Haïdi, vous qui êtes professeur à Columbia, vous qui avez travaillé avec l'historien Manning Marable sur sa grande biographie consacrée à Malcolm X, On est un peu plus au sud d'Harlem, dans ce qu'on appelle le Harlem Central, Central Harlem. On est à l'intersection de la 115e rue.
116e.
116e.
C'est très important de dire 116e. Hein?
Pourquoi?
Parce que dans la communauté, tu dis 116e, tout le monde sait de quoi tu parles. C'est la mosquée Shabazz, c'est cette mosquée ici. Et donc 116, c'est comme 125. C'est une avenue très importante dans l'histoire d'Harlem. Alors, la mosquée, ici, on est à la mosquée Malcolm Shabazz. Malcolm Shabazz Mosque. C'était fondée en 1946. Ça s'appelait le temple numéro 7, le Nation of Islam. Ils créaient des temples. C'était après les années 70 où ils ont changé le nom à des mosquées. Donc, c'était ici, fondé par Malcolm X. Moi, les années 90, je venais ici, je voyais Muhammad Ali, le boxeur, je voyais des grandes figures de la communauté. So, yeah, that's the story.
My name is Herb Boyd.
Je m'appelle Herb Boyd.
I call myself
et je me présente
AAA
comme
man.
Un triple A.
I'm an academic.
Auteur,
I'm an author,
académique.
And of course, I'm an activist.
Et bien sûr, activiste.
Vous nous recevez là au siège de l'Amsterdam News. À Harlem, juste à côté du Malcolm X Boulevard. Vous êtes né en 1938 en Alabama. Ensuite, vous avez vécu à Détroit. Et je crois que c'est là que vous avez rencontré Malcolm X.
Oh, indeed. Obviously, I'd heard of him, as James Baldwin said.
James Baldwin
he heard
dit qu'il avait entendu Malcolm.
I heard
bien avant de le voir.
Too,
j'ai aussi entendu Malcolm avant de le voir physiquement. La première fois, ça devait être en 1960-61. J'étais revenu à Détroit, de New York, un ami et mon cousin, qui étaient à la Nation of Islam, m'ont dit
Malcolm X is coming to town. I say, what?
Herb, tu reviens juste à temps, Malcolm X arrive.
So we went out to the mosque.
Donc, on est allé à la mosquée.
So seeing him is one thing, meeting him
je l'avais
is another.
Déjà vu à Harlem, so I really mais le voir, c'est une chose. Le rencontrer, c'en est une autre.
And at the end of one of his lectures,
à la mosquée,
you know, he have all
à la fin de son discours, tous les hommes se sont levés au fond de la salle. Ils se sont mis en rang et il est passé devant chacun en serrant les mains. Ses mains étaient tellement puissantes, tellement fermes et fortes. Je n'ai jamais serré une main aussi grande. Et mon cousin me dit après, tu dis toujours que tu es journaliste. Pourquoi tu ne lui as pas posé de questions? Mais je ne pensais pas que c'était le moment. C'était comme il disait, Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Puis il passait à la personne suivante. Et ce contact avec Malcolm a été mon premier pas vers lui.
Il y a beaucoup d'Afro-Américains, hommes comme femmes, quand ils ont vu Malcolm X pour la première fois, qui disent que ça les a tellement marqués qu'ils sont tombés amoureux de lui. Est-ce que vous, ça vous a fait la même chose quand vous avez rencontré Malcolm X?
Même chose. L'amour with Malcolm.
C'est certain.
Maybe not peut-être so much a love affair,
pas tant une histoire d'amour que de fidélité et d'admiration.
He had such a powerful
il avait
presence,
une présence tellement forte
and he convinced you
et il pouvait vous convaincre de tout ce qu'il disait.
He could have been a salesman, you know.
Il aurait pu être commercial.
Sylvie Laurent, vous êtes historienne, américaniste, on dit souvent américaniste. Vous avez beaucoup travaillé sur le racisme, sur le capitalisme aux États-Unis, sur les liens entre les deux. Vous êtes aussi biographe de Martin Luther King. Pour rencontrer Malcolm X, on peut lire l'autobiographie, on peut lire aussi le dossier du FBI, il y a 4000 pages. Et il y a aussi ce petit livre que j'ai, 3 entretiens avec James Baldwin, avec Malcolm X et avec Martin Luther King, fait par un homme qui s'appelle Kenneth Clark et qui les reçoit à la télé de Boston. Et j'aime beaucoup la façon dont Kenneth Clark raconte l'arrivée de Malcolm X. On est en 63. Il raconte l'arrivée de Malcolm X sur le plateau de télé.
Malcolm X est un homme ponctuel. Il est arrivé au studio de télévision avec 2 de ses conseillers les plus intimes, à l'heure précise de notre rendez-vous. Le ministre Malcolm X, il tient beaucoup à ce titre de ministre. est un bel homme, grand, entre 35 et 40 ans. De toute évidence, c'est une personnalité dominante, dont la puissance bien disciplinée est d'autant plus remarquable et contraste avec la déférence dédiée que lui témoignent ses compagnons. J'entends quelqu'un qui veut porter le message selon lequel la réforme du monde commence par la réforme de soi-même. C'est ça le discours que porte Malcolm X. Frère, réforme-toi. C'est-à-dire, fais en sorte que dans ta vie quotidienne, les plus simples petites choses te donnent la dignité que le blanc ne te donne pas. Arrête de boire, arrête de jouer, fais la prière, sois un bon mari, occupe-toi de tes enfants. Et soit à l'heure à tes rendez-vous, ça commence par là. Il veut que dans sa vie quotidienne, le noir puisse être celui qui est responsable de lui-même, qui reprend le pouvoir et qui est à lui-même sa propre autorité. Donc il commence par lui-même. Voilà.
Vous parlez, Sylvie Laurent, du respect chez Malcolm X. Mais il y a une personne, entre autres, pour laquelle parfois il a beaucoup manqué de respect. Je reprends cet entretien avec Kenneth Clark qui le lance sur Martin Luther King.
Ce sont les blancs qui suivent King, ce sont les blancs qui paient King, ce sont les blancs qui subventionnent King, ce sont des blancs qui appuient King. Mais la masse des noirs ne soutient pas Martin Luther King. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est dur avec Martin Luther King, il est... sans concession, son auditoire à lui n'est pas le même. Martin Luther King, il vient de Géorgie. Il s'adresse aux Noirs du Sud qui sont principalement dans une tradition où le christianisme, la vie communautaire et l'activisme en faveur des droits civiques sont intimement liés. Donc c'est une certaine forme de conception de la communauté et de la collectivité. Malcolm X, lui, il vient du Nord, d'une tradition de brutalité, de ségrégation dans les ghettos et d'une jeunesse qui n'est déjà plus la même que celle de Martin Luther King. Donc déjà, d'une part, il ne s'adresse pas à la même Amérique noire, d'une certaine façon, et d'autre part, ils ont des positions politiques différentes. Toute forme de négociation, de discussion avec le Parti démocrate, avec la Maison Blanche, qui viserait à l'adoption de lois comme la fin de la ségrégation formelle ou le droit de vote, ne sont pour Malcolm X que des trompe-l'œil. L'ennemi, c'est l'apathie. L'ennemi, c'est la résignation. L'ennemi, c'est que les Noirs refusent de lutter. Ils préfèrent être dans cette position performative de « Martin Luther King est un vendu ». Si c'est cela qu'il en coûte pour que les jeunes membres des gangs de Détroit, de Chicago ou de New York décident de se reprendre en main, de se discipliner et de joindre une organisation politique. Donc il dira que ce pique-nique de la marche en Washington, c'était bien gentil, mais c'est de la foutaise, parce que si d'aucuns croient qu'il y a un rêve possible en Amérique, en réalité il y a un cauchemar.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
Washington, D.C., 28 août 1963.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah.
Nobody knows other troubles. I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see.
Herb Boyd, est-ce qu'on est bien sûr que Malcolm X était là ce jour-là?
Yes, he said he was there.
Il a dit qu'il y était. Il ne s'est pas montré, mais il était là, dans le fond. Et il en a parlé. Mais avant ça, en 1964, Malcolm était à Harlem, quand Martin Luther King est revenu d'Oslo, où il avait reçu le prix Nobel de la paix. Il y avait une manifestation en son honneur, et Malcolm y était. On le sait parce que Andrew Young, le bras droit de King, raconte qu'il est descendu de la scène et qu'il s'est assis à côté de Malcolm alors que Martin Luther King parlait. Donc, 1963, marche sur Washington. 1964, il se rencontre au Capitole. Et le plus important, c'est 1965 à Selma. Malcolm à Selma, Alabama. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il donnait un discours à la Brown Memorial Chapel. Et après le discours, Coretta King, la femme de Martin Luther King, se pressait de sortir. Malcolm aussi, parce qu'il partait ensuite pour la France et pour Londres. Mais il a eu le temps de dire à Coretta, « Dites à votre mari que je le couvre. Je veille sur lui. S'ils s'en prennent à lui, le clan ou d'autres, il y aura des représailles. »
Ne vous méprenez pas sur ma démarche, Madame King. J'ai un profond respect pour votre mari.
Vous avez fait des déclarations irrespectueuses par le passé, monsieur. Donc il faut que vous compreniez que votre présence peut inquiéter ici.
Bien sûr, j'en suis conscient. Votre mari et moi ne sommes pas tout à fait en accord sur la façon dont les Noirs peuvent faire progresser leur propre cause. Et il est vrai que j'ai pu être sévère dans mes critiques de la non-violence. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde qu'il faut me considérer comme un ennemi.
Mais que comptez-vous leur dire exactement ce soir? Parce que je ne voudrais pas que cela détruise tout ce qui a été construit ici.
Sachez que mon regard sur les choses a changé. Mais le shérif d'ici n'en sait encore rien. Alors laissez-moi représenter l'alternative à votre mari. L'épouvantail qui effraie les Blancs au point qu'ils se tournent vers lui. Que ma présence ici puisse agir comme l'annonce des factions qu'ils auront à combattre, s'ils s'obstinent encore longtemps à refuser au révérend King ce qu'ils demandent.
Mais Coretta, tu te souviens comment il a parlé de nous? Il nous a qualifiés d'évangélistes incultes pour nègres. Il m'a appelé le nouvel oncle Tom. Il a déclaré à la télévision que je me fais payer par l'homme blanc pour maintenir les noirs dans la servitude. Que je me fais payer par l'homme blanc.
On a donc ces deux personnes, Malcolm X et Martin Luther King, qui parlent de la même chose. La fraternité, l'union, la guerre au Vietnam. Ils étaient alignés. Il y avait une convergence. Leur trajectoire se rapprochait.
Bon,
ce sont que des suppositions, bien sûr. Il n'y a rien de vraiment solide. Il y a les meetings. Les moments où il est à proximité de King et son envie de le rencontrer. Mais il n'y a pas de document écrit sur son projet de le rejoindre.
Malcolm X, Message to the Grassroots, 10 décembre 1963.
To understand this, you have to go back to what young brother here referred to as the house Negro and the field Negro, back during slavery. There was two kinds of slaves. There was the house Negro and the field Negro. The house Negro, they lived in the house.
Pape Ndiaye.
Il faut que vous réfléchissiez à ce que notre jeune frère ici présent a dit sur la différence qu'il y avait au temps de l'esclavage entre le nègre domestique et le nègre travailleur des champs. Les nègres domestiques, ce sont ceux qui vivaient dans la maison du maître. Ils étaient bien vêtus, ils mangeaient bien parce qu'ils mangeaient comme le maître, ce dont ils ne voulaient pas. Ils vivaient au grenier ou dans la cave, mais ils vivaient près du maître. Et ils aimaient le maître plus que le maître ne s'aimait lui-même. Si le maître disait « Nous avons une bonne maison », le nègre domestique disait « Ouais, nous avons une bonne maison ».
Et à ce nègre domestique, donc, il oppose une autre figure qui est
le nègre des champs, qui lui était frappé du matin au soir, c'est ce que dit Malcolm X. Il vivait dans une cabane, dans une hutte, il portait de vieux vêtements dont personne ne voulait plus, il haïssait son maître. Oui, il le haïssait. Il était intelligent. Quand la maison brûlait, il n'essayait pas d'éteindre le feu. Le nègre des champs priait pour qu'il vînt un coup de vent. Quand le maître tombait malade, le nègre des champs priait pour qu'il mourût. Si quelqu'un venait trouver le nègre des champs pour lui dire « Quittons cette maison, sauvons-nous », il ne répondait pas « Mais pour aller où ?» Mais il répondait « Tout plutôt que cette maison ». Il y a aujourd'hui des nègres des champs en Amérique, j'en suis un. Et donc évidemment, là, c'est cette distinction qui est faite entre le nègre domestique, c'est le noir qui collabore avec le noir des champs, celui qui est indomptable, celui qui veut sa liberté à n'importe quel prix. Cette opposition, évidemment, que trace Malcolm X, sous-entendu, c'est aussi une critique voilée de Martin Luther King. Aux yeux de Malcolm X, c'est celui qui essaie d'arracher les petites choses, mais qui ne porte pas le discours de la radicalité. C'est celui qui ne veut pas renverser la table, c'est celui qui veut ajouter des couverts sur la table.
Est-ce que vous l'avez en tête, cette photo, cette unique photo où Malcolm X rencontre Martin Luther King?
Effectivement, une photo où on les voit, ils se serrent la main, hein, c'est ça? Mm-hmm. Hélas, on ne saura jamais ce qui aurait pu advenir par la suite.
9 mars 1964, rupture de Malcolm X avec la Nation of Islam.
Alors comment est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois? Comment est-ce que vous êtes passé de simple spectateur à ces meetings à quelqu'un qui travaille avec Malcolm X? Peter Bailey.
Okay, well, as I said before,
comme je l'ai dit,
after I heard him speak,
partout où il parlait, j'allais. Je ne me souviens plus quand c'était. En 1963, je travaillais pour Time Inc., la société de presse. Et de l'autre côté de la rue, il y avait les locaux du groupe NBC. Il y avait une jeune femme qui travaillait là-bas. Et un jour, elle me dit, il va y avoir une nouvelle organisation. Est-ce que tu veux en être? Ce serait une vraie organisation pour les Noirs, etc., etc. Donc j'ai dit, oui, j'aimerais bien. Et elle me dit, je t'appelle samedi matin. Je te dirai où on se réunit. Mais ne pose pas de questions. Elle m'appelle, et c'était à l'Audubon Ballroom. Et quand je suis arrivé, le samedi matin, j'ouvre la porte. C'était une salle de réunion avec une longue table. Et il y avait une douzaine de gens assis autour, trois ou quatre que je reconnais. Et après peut-être une vingtaine de minutes, frère Malcolm est entré. Et je n'ai réalisé que j'allais faire partie de la nouvelle organisation de Malcolm X que quand il est rentré dans cette pièce. Et j'ai failli tomber de ma chaise quand il est rentré. Je me suis dit, oh mon Dieu, il s'est assis, il s'est présenté, on s'est tous présentés. Puis il nous a dit, nous sommes là parce que je vais fonder une nouvelle organisation qui s'appellera l'Organisation pour l'Unité Afro-Américaine. Je lui ai dit que j'aimais lire et que j'écrivais. Et on m'a mis sur le journal de l'OAAU. C'est comme ça que j'ai commencé le journalisme. Grâce à frère Malcolm, je suis devenu le rédacteur du journal de l'OAAU.
À quoi elle sert cette organisation? Quelle est sa différence avec la Nation of Islam?
C'est simple. La Nation of Islam était une organisation religieuse. Il y avait de la politique, mais il fallait être musulman.
Est-ce que les Blancs étaient acceptés dans cette nouvelle organisation de Malcolm X?
Non.
Brother Mark...
Frère Malcolm nous a dit, il y a des organisations blanches et des gens avec qui on peut travailler. Mais ils ne seront pas membres de l'OAAU. Il a écrit une lettre pour les blancs sincères où il disait, On peut travailler, on a des sujets en commun, on peut s'asseoir et parler, mais vous ne serez pas membre de l'OAU. On travaillera avec vous en tant que membre de votre organisation. C'était comme ça.
Avril 1964, départ de Malcolm X pour l'Égypte.
Vous avez travaillé, Herb Boyd, sur un objet très précieux qu'on a retrouvé au début des années 2000 dans un garde-meuble en Floride. Cet objet, c'est le journal de bord des voyages de Malcolm X, la dernière année de sa vie. À quoi est-ce qu'il ressemble, ce journal de bord ?
L'une des choses les plus intéressantes dans ce journal, c'est que j'ai essayé d'identifier un homme qu'il fréquentait du nom de Leo Milas. Cet homme est dans les parages au moins 10 fois. Qui est-il? Comment est-il au courant de son itinéraire à chaque moment? Il devait avoir des renseignements. Je suppose que c'était soit un agent, soit un informateur. Malcolm sentait toujours qu'il était surveillé par la CIA et par le FBI. C'était une des révélations de ce journal. Vous savez, voyager n'est pas simple. Et Malcolm est seul. Il n'a personne pour l'accompagner, pour le préparer. Tu vas rencontrer le président Nasser, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas rencontrer le prince Faisal d'Arabie Saoudite, qu'est-ce que tu vas lui raconter? Donc Malcolm navigue à vue et il improvise. Beaucoup disent qu'il était le premier président noir. Il faut se rendre compte, le prince Faisal lui donne sa chambre. Tiens, je te donne un palais.
That's another thing that concerned the State Department, too, the impact he's having on these world leaders.
Et ça inquiétait le gouvernement.
Because he's trying to
l'influence qu'il avait sur ses chefs d'État, parce qu'il leur racontait ce qui se passait dans notre pays. Et il parlait de ce qui se passait dans le leur. Malcolm a ce double objectif, représenter l'Amérique noire et en même temps s'opposer à ce qu'il appelait le dollarisme américain. J'ai apporté quelques documents. Celui-ci donne une idée des voyages de Malcolm.
And this is from the Pan American Airways.
Ça vient de la Pan American Airways.
And they show the itinerary that and the dates.
Et ça montre son itinéraire.
Et ses dates. Right down to May 19th, where he's in Algiers. That's his 39th.
19 mai, il est à Alger. C'est son 39e anniversaire.
And he talks about that in the diary too.
Il en parle dans son journal. Mais avant ça, il est à Casablanca, au Maroc, et puis à Paris, le 21 mai. C'est un plan de voyage que j'ai tiré de ses dossiers. Il écrit, je viens de terminer mon Hajj, le pèlerinage à la Mecque, en tant qu'invité de son Excellence le prince Faisal. Et on voit aussi qu'il signe de son nom, El Hajj Malik El Shabazz. Et en dessous, Malcolm X.
17 avril 1964. La Mecque. Prière Al-Jumma. Il y a foule de toutes les couleurs qui s'incline à l'unisson. Je suis entouré de blancs, et pour la première fois de ma vie, je ne suis pas conscient de la race. Les blancs n'ont pas l'air blanc. Des ténèbres surgissent la lumière. La Mecque est aussi vieille que le temps. Notre voiture s'est frayée un chemin à travers les routes tortueuses, boutiques de toutes sortes des deux côtés de la rue, des centaines de bus venant de toute la terre, et des voitures et des camions étaient garés partout. Nous nous sommes garés à côté de la grande mosquée. Nous avons fait nos ablutions et nous sommes entrés.
Alors là, j'ai quelque chose pour vous, Fiorin Aklaf. Je vais vous montrer une photo.
Ah ?
Regardez ça.
Oh, ha 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 ! Ah ha 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 ! So how would I interpret this ?
Comment est-ce que j'interprète ça ?
Well, this is Malcolm X standing in front of the pyramids.
C'est Malcolm X devant les pyramides.
Particularly of Giza.
Et plus précisément, les pyramides de Gizeh.
Cette photo de Malcolm X devant les pyramides, donc elle date d'avril ou mai 1964. Je vous la montre parce que vous avez choisi de vous appeler Fearon, donc Pharaon. Malcolm X, il a changé de nom plusieurs fois dans sa vie. Qu'est-ce que c'est l'utilité de changer de nom à certaines périodes de sa vie ?
Well, it helps remind others.
Ça sert à faire prendre conscience aux autres.
It's a good feeling for yourself as well, but I think it's a good reminder.
C'est bien pour soi aussi.
That it's possible to claim.
Mais je crois que ça montre aux autres qu'il est possible de revendiquer son identité.
Your identity does not have to be defined.
Que votre identité n'est pas forcément définie par la société dans laquelle vous grandissez. Et c'est très important.
This is April 21st, 1964. And some of this is captured in his diary too.
Ça date du 21 avril 1964 et ça vient aussi de son journal. Je me suis fait aux coutumes. Je mange avec les mains dans le même plat que les autres. Je bois dans le même verre, je me lave avec la même cruche. Et je dors maintenant sur un matelas à la belle étoile. J'écoute ronfler les pèlerins autour de moi. Les gens ronflent tous dans la même langue. De tous les niveaux, du roi au mendiant, on mange et on dort de la même façon. Toutes les couleurs, toutes les classes. Le Hajj met tout le monde au même niveau.
Et donc c'est ça qu'il découvre pendant son pèlerinage, Herb Boyd, qu'en fait, tout le monde ronfle de la même façon.
Everybody snores the same way.
Right. You snore in the same language.
On ronfle dans la même langue.
He was talking about the commonality.
Il parlait de ce qu'il y avait en commun.
Not the differences, but the things we
pas
have
des différences.
And that's what he was recognizing in making the Hajj.
Et c'est ce qu'il a remarqué quand il a fait le Hajj. Il a effacé beaucoup de choses qu'il avait apprises avant sur les différences entre les gens. Ici, on parle de l'unité et d'une espèce de fraternité.
On est toujours avec vous, Fearon Aklaf, dans un studio de répétition à Manhattan. Vous êtes devant votre batterie, vous êtes batteur, vous avez travaillé sur l'opéra d'Anthony Davis consacré à la vie de Malcolm X. Pour cette dernière, on va dire, étape, ce dernier chapitre de la vie de Malcolm X, où il s'appelle El Hajj Malik El Shabazz, il a fallu que pour l'opéra, vous transcriviez ça avec un autre rythme.
The rhythm of El Hajj Malik El Shabazz.
Okay.
Lettre du 22 septembre 1964. Pendant 12 longues années, j'ai vécu enfermé dans un carcan. Croyant dur comme fer qu'Elijah Muhammad était un messager envoyé par Dieu lui-même. J'étais son fidèle le plus fervent. Je le représentais et je le défendais au-delà des limites de l'intellect et de la raison. Je ne trouverai pas le repos avant d'avoir réparé le mal que j'ai fait à tant de noirs innocents et bien intentionnés qui, à cause de mon zèle évangélique, croient en lui encore plus fanatiquement et aveuglément que ce que je croyais moi. Je suis maintenant un musulman dans le sens le plus orthodoxe du terme. Ma religion est l'islam, comme on le conçoit et on le pratique dans la ville sainte de la Mecque. Cette religion considère tous les hommes comme des frères. Je rejette complètement la philosophie raciste d'Elijah Muhammad. Il a appelé Islam simplement pour tromper des gens crédules, comme il m'a manipulé, moi. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, pour l'idiot que j'ai été.
Well, yeah, so that's my feeling that I get.
Firo Anaclaf, est-ce que vous vous souvenez du jour de la mort de Malcolm X? C'était en 65, vous aviez 10 ans.
It seemed to be all chaos.
C'était le chaos.
My father had this worried look on his face when he opened the newspaper.
Mon père a eu l'air préoccupé quand il a ouvert le journal.
That's the only thing I remember.
C'est tout ce dont je me souviens.
And I think he was worried because
Et je crois qu'il était préoccupé parce qu'il pensait que ça provoquerait des émeutes.
But that did not happen.
Mais ça n'a pas été le cas.
So even though he didn't believe philosophically where Malcolm was, he didn't like that.
Même s'il n'adhérait pas philosophiquement à Malcolm, il n'aimait pas ça.
So it takes time for a society to understand the importance of many of its people who are trying to make change.
Ça prend du temps pour comprendre l'importance des gens qui tentent de changer les choses.
Everybody loves Malcolm X today.
Je pense que tout le monde aime Malcolm X aujourd'hui parce que c'est facile de l'aimer.
It was not easy to love Malcolm X in 19.
Ce n'était pas facile en 1965.
Today, people may not even have.
Et aujourd'hui, les gens ne saisissent peut-être pas l'entièreté de Malcolm X. Ils ne connaissent pas grand-chose, mais ils aiment le X.
We are an abbreviated society.
On est une société abrégée.
So, you know, they like the way it looks on a t-shirt.
Ils aiment ce à quoi ça ressemble sur un t-shirt.
Malcolm X is more popular.
Malcolm X est plus populaire aujourd'hui pour plein de raisons. Peut-être aussi pour toutes les choses bouleversantes qu'il a dites. Le titre de son discours.
The ballot or the bullet.
Le bulletin de vote ou le fusil. Personne ne pourrait faire ça aujourd'hui. Mais on peut mettre un t-shirt.
Le porte-voix. Avec Firo Anaclaf, Sylvie Laurent, Christiane Taubira, Abdourahman Mouhamad, Hicham Haïdi, Peter Bailey, Herb Boyd et Pap Ndiaye. Malcolm X est interprété par Biran Ba. L'autobiographie est traduite par Anne Guérin, Gaël Diffère et Marie Herman et parue aux éditions Hors d'atteinte. Vous avez entendu les voix de Prudence Castelot, Pauline Ziadé, Bonnie Charles, Myriam Ajar et Anne de Peufeyou, enregistrées par Nadège Antonini et Claire Levasseur. Vous avez également entendu des extraits du film Selma de Ava DuVernay. Merci à Martinique la Première, à Hamzat Boukari-Abara et à Yasmine Mangera. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin, coordination Christine Bernard, chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost, Malcolm X, Colère Noire, Une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier.
In the devil's grip, I can't remember the first line, but the key line is Black man, raised from your living grave before it's too late.